RMC.
Inbound card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket time, c'est parti, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis, à télécharger sur rmc.fr avec aujourd'hui Frédéric Veil, Stephen Brun, Arnaud Valadon. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous. Vous êtes déjà très nombreux à vous jeter sur cet épisode car le thème vous a attiré forcément. Les Français, les joueurs français, c'est un spécial joueur français. Les Français brillent. Cette Olympiade est pour nous, Fred.
J'espère.
On espère.
Bah on espère tous, forcément.
Mais c'est dans quelque temps. A-t-on déjà eu un vivier plus excitant ? Peut-être. Peut-être. Une génération avec Boris, avec Joachim, Noah. Peut-être c'était encore Lopi plus excitant. Plus.
Oui, Joachim, on l'a pas vu, on l'a vu une fois.
Oui. Mais ça, on savait pas.
C'était, ah, il y a eu de l'espoir. Hein.
On savait pas si on allait le voir déjà.
En tout cas, c'est une période exceptionnelle qu'on vit. On peut le dire.
Oui, tout à fait.
Bah, rien qu'avec Victor Wembanyama, ce sera évidemment le premier thème.
Joachim qu'on a revu. Joli discours pour Derrick Rose, la cérémonie,
ouais,
du maillot.
C'était émouvant.
T'as pleuré ?
Non. Mais j'aimais bien.
T'as quoi, pas d'émotion, toi. T'as un cœur de pierre.
Non, c'est pas ça. Bah, ça va quand
tu
même.
Tu pleures devant des films ?
Oui. Bah, très facilement.
Des émissions ?
Des émissions ?
Je sais pas, The Voice Kids, tu pleures ?
Devant le Big Deal, ouais.
Bref, les performances stratosphériques de Wembanyama, est-il pour vous top 5 mondial ? Voilà, et si vous êtes tous d'accord, on va monter le curseur encore un peu. Les autres, Koulibaly, Sarr, Yabusele, il y en a d'autres, hein. La NBA est-elle de nouveau française ? C'est notre deuxième thème. Et puis, la partie historique nous projettera dans le futur, on fait ça une fois de temps en temps. On se projette sur l'équipe de France 2028. Théo Malédon est-il le chaînon manquant ? Grande saison de Théo Malédon, et c'est peut-être le joueur qui nous manque. Le quiz sera consacré aux joueurs français. C'est très large comme thème, hein, c'est très vaste.
French,
il y a des
player,
nouveautés.
French player.
Mais pas uniquement, j'ai trouvé quand même le moyen de faire autre chose, tout en rapprochant quand même d'une manière ou d'une autre d'un joueur français. C'est parti.
Ouais, tu nous as déjà embrouillé, rien que l'explication de ton quiz, Pepper.
Exactement, allez, il est dur le quiz, je pense. Okay, pas bon, facile, disons. C'est parti pour Basket Time spécial joueur français.
The Wemby era officially began the moment he won Rookie of the Year last season.
And there is Victor Wembanyama! Oh, mama!
Gasol locks it up.
And Wemby throws it down! Gasol. Wemby just caught it in midair, facing the opposite direction.
I think he's a special player. I think he's going to be remembered forever.
There's the double-double for Wemby. 12 points, 10 rebounds in the first half.
This guy isn't just blocking shots. He's rewriting the art of rim protection.
Wemby blocks it! Gets it again.
So, what makes Wemby a legit MVP contender?
Another long three from a mile away! Sidestep, another three. Oh. It's good! Wemby, wow, taking over Denver is true! Portois, Como, Seva!
Il se régale avec le français, les ricains, mais parfois il maîtrise
comment
pas grand chose.
Comment ça va
quand même,
hein. N'importe quoi. Bon, en fait.
Est-ce que t'as vu un mec qui commente des matchs de Washington qui avant le match demande à Bilal, dis-moi un mot français comme ça, si tu mets un truc comme ça, je peux le sortir et tout ça. Et Bilal lui dit, bah, sale, sale, ça c'est sale.
Et le mec qui répond, dit salé,
salé,
salé. Ah non, ça marche pas. Donc Wembanyama qui est en train d'écrire l'histoire sous nos yeux. Statistiquement, il fait des choses inédites. Statistiquement. Il fait des choses inédites, on ne montera pas, c'est plus rigolo de ne pas monter.
Donc, des choses inédites à quel niveau ?
Des choses qui n'ont jamais été faites.
Oui, mais à quel niveau ?
Statistique, oui, okay. C'est ce que j'ai dit. Bah, j'ai dit deux fois statistiquement, okay, mon cher. Il y a eu un duel en back-to-back avec Jokic qui a passionné les États-Unis. Je vous pose la question, est-ce qu'il est top 5 mondial déjà ? Arnaud Valadon, on va faire un point sur ses stats déjà historique.
Allez, comparons à la Grande Ligue, il est le 7e meilleur marqueur de la NBA, 25,7, mais c'est finalement loin derrière les 32 et 31 points de moyenne de Jokic et Giannis Antetokounmpo. Il est 8e au rebond avec 11 prises en moyenne contre 13 pour le Joker, le meilleur étant Karl-Anthony Towns des Knicks avec 14 rebonds par match. Les blocs, parce que c'est peut-être évidemment là où c'est le plus fort, il est le leader et de très loin, 4 contre de moyenne, il en a mis 8 d'ailleurs cette nuit contre Chicago. Le dauphin, c'est Walker Kessler de Utah avec 2,6 à l'évaluation, 6e place pour Wemby avec 25 alors que Jokic est à 32. Ça, ce sont les statistiques et les prédictions, parce que toutes les semaines ou tous les mois la NBA et les médias font un top 5 MVP. Et bien Wemby vient justement de rentrer dans le top 5, profite notamment de la blessure de Luka, mais il est devancé par Tatum, Giannis et peut-être finalement le duel final pour le trophée, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.
Bon, on va évacuer un premier sujet, il est All-Star.
Oui.
Réglé.
Oui.
Troisième au vote sur les intérieurs.
Ce sera pas starter, par contre.
Est-ce qu'il est top 5 de la NBA, Frédéric Weiss?
Franchement, c'est très difficile comme question, mais il vient de sortir d'un mois de décembre assez incroyable. Il est le premier joueur dans l'histoire à compiler 300 points, 100 rebonds, 50 contres, 50 passes et 43 points. Ce qui est monstrueux. C'est le premier de l'histoire. Personne n'avait jamais fait ça. Donc à partir de là, oui, il est sur cette phase ascendante. Il est le meilleur défenseur, sans l'ombre d'un doute, parce que concrètement, il met tellement de blocs, il est tellement dissuasif que c'est très impressionnant. Il met des points, son équipe commence à gagner. Moi, je le mets top 5, oui. Mais après, il y a des joueurs qui ne sont pas là. On a Luka Doncic qui a raté quelques matchs, par exemple. Mais oui, je vois quatre joueurs devant lui.
Qui sont
Jokic, Shea et Yanis.
Ça fait 3.
Oui, mais
le quatrième étant...
Il joue à Boston, je ne me rappelle plus son nom.
Jason Tatum.
Ah voilà, c'est ça, exactement.
Tatum. Très bien. Mais donc, il n'est pas encore au niveau de ces mecs-là pour toi?
Bah, je pense qu'il est pas, il est vraiment pas loin. Et sur son mois de décembre, il est avec eux. Mais voilà, il y a les victoires qui comptent. Il y a le phénomène Nikola Jokic quand même qui fait des matchs incroyables. Et quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain pour Denver, ça change énormément de choses.
Bon, Victor aussi quand il est pas sur le terrain, ça change.
Oui, bien sûr. Mais ils sont quatrième à l'Ouest, Denver.
Steve,
écoute, pour moi, je vais pas le mettre dans les 5. D'abord, laisse-moi dire quelque chose. Quand on juge Victor Wembanyama aujourd'hui, quand on juge la NBA, on sort tout un tas de chiffres. J'en peux plus, j'en ai ras la gueule des chiffres, hein, Pierrot. Je te lève tous les matins. Le premier joueur à avoir fait pipi deux fois et ensuite avoir mis trois. Moi, j'ai envie.
Et donc, j'ai été un joueur comme ça qui
a fait pipi deux fois. Oui, moi, je me suis régalé. Il y a eu des stats sur le premier mec qui fait ça le 25 décembre.
Oui. Le Christmas Game, Victor Wembanyama est incroyable.
C'est fou.
Il a terminé troisième meilleur score.
C'est pour les gogos, là, quand même.
Moi, j'ai envie de regarder des matchs de basket, apprécier les performances, les qualités de Victor, des autres joueurs.
Ça rentre forcément dans les statistiques. Parce que je peux pas dire.
Oui, mais j'en peux plus parce que tous les jours, tu trouves une nouvelle stat pour dire que Victor ou un autre a fait mieux que machin.
Et je suis, moi je crois que plus à vomir.
Après, il y a quand même des trucs significatifs.
Oui. Mais le problème, par exemple, mélanger Lendor, Pierrot, tu sais plus ce qui est significatif ou quoi.
Ça, c'est vrai, par contre.
Quand tu vois qu'avant ses 100 premiers matchs de NBA, il comptabilise plus de contres que 90% des joueurs de l'histoire.
Et que t'as juste Manu de Bol devant.
C'est phénoménal. C'est quand même un truc qui marque les esprits.
Mais tu vois cette stat là où il a mis plus de tirs à 3 points que Steph Curry, mais le problème c'est que
non, mais ça
plus, oui, mais 300 plus.
Oui, mais ça moi ça me marque pas.
C'est comme l'histoire de LeBron James qui a battu le Michael Jordan sur le nombre de matchs à 30 points carrière. Bon, il l'a fait en 700 matchs, il l'a fait en 500 matchs.
Mais les contres, le nombre de contres en moins de 100 matchs, moi je trouve que ça veut dire quelque chose.
Oui, ça c'est très bien, bravo.
Mais en contre, l'histoire à Kim Lajuan, il en met plus que lui.
Alors maintenant, quand tu regardes les matchs, est-ce que tu vois un joueur top 5?
Non, je ne vois pas un joueur top 5. Bon, on va pas revenir sur Nikola Jokic, sur Shea. Moi, je vois un garçon dont on parle très peu aujourd'hui. En fait, j'ai pas envie de minimiser ce que fait Victor. Ce que fait Victor, c'est exceptionnel pour un garçon qui est dans sa deuxième année. Voilà, les Spurs qui ont un bilan à 50%, les matchs à 40 points. Bref, on a déjà tout dit sur Victor. On va pas en rajouter. Mais il y a un garçon qui, pour moi, mérite d'être dans ce top 5 qu'on n'évoque jamais. Mec, c'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, il est dans la meilleure équipe qui a perdu 4 matchs à Cleveland.
Tu sais pourquoi? Parce que c'est dilué forcément.
C'est dilué.
Il y a Garland qui fait une super saison.
Ouais, mais frère,
il joue
31 minutes, Donovan Mitchell. C'est le plus petit temps de jeu. Jokic, ça joue des 37 et compagnie.
Mais j'entends, le style de jeu de Cleveland ne correspond pas à avoir un leader incontesté et incontestable. C'est ça le problème.
Moi, ce qui me gêne, c'est de ne pas parler de Donovan Mitchell, qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA. 4 matchs perdus.
Pour moi, il est top 6, top 7. Je suis d'accord avec toi.
C'est complètement fou en fait ce que fait Donovan Mitchell. Accepter aussi de redescendre un petit peu dans la hiérarchie à la course de MVP en prenant moins de tirs, en jouant moins de minutes, en diluant les stats comme tu l'as dit avec d'autres joueurs. Mais Donovan Mitchell.
Après, il paye sa réputation peut-être aussi de joueur qui choke en playoff. C'est peut-être ça.
Parce qu'il
a quand même plus d'expérience, il est plus âgé.
Encore une fois.
Et on attend toujours.
Qui est le meilleur joueur de Cleveland? Donovan Mitchell, mais de beaucoup, tu trouves? Je trouve qu'un Garland, il n'est pas juste derrière. Mais
regarde, à l'époque des Spurs, ça n'empêchait pas d'avoir Duncan, All-Star, incontesté.
Jalen Brown.
c'est pas pour Dingis.
Je croyais que tu allais me dire Jalen Tatum, j'allais dire oui, mais de beaucoup. Bon,
je vois Arnaud Valadon qui boue, donc pour toi, il n'est pas top 5 dans le jeu.
Sixième, c'est bien, non? Il a 21 ans, c'est sa deuxième saison.
Sixième, c'est très bien. Attends, 5 ou 6, on n'aura pas non plus chipoté.
Je pense que 5... C'est bien. Sur Donovan Mitchell, c'est vrai que les arguments de Stephen, Cleveland est incroyable, c'est peut-être celui qui se dégage plus en numéro 1. Mais quand tu rames, parce que Là, je vais t'énerver parce que tu as dit on a trop de stats et tout. Quand tu ramènes parce que tu as des stats en NBA, tu peux ramener sur 36 minutes où là, ça lisse le temps de jeu. Bah, il est 8e, par exemple, en termes de points marqués. T'as Yanis et Jokic sont bien devant. Alors, tu vas me dire que le basket, c'est pas que des points.
Ouais, mais s'il fait pipi deux fois, il est où
Jokic est tellement fort. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de débat.
Et Shai aussi. Hein.
Et Shai aussi.
Ils sont au-dessus, les deux, quand même.
Mais Jokic, rend compte qu'il met 10 points de plus cette saison en moyenne que sa moyenne en carrière. Il a augmenté son niveau, enfin, il est juste un touchable, c'est un dieu.
Parce qu'il est obligé. Parce
alors là, par contre, on avait un débat là-dessus avec Fred, et là, moi, je suis pas d'accord. Il a augmenté parce que son équipe est moins forte. Aussi,
oui.
Là, on est d'accord.
Mais il a.
Ouais, mais c'est 4e de la conférence Ouest. Hein.
Oui, mais ok, ils ont été champions il y a 2 ans. Ils avaient une meilleure équipe quand même.
Ils ont quand même 6 victoires de plus que les Spurs, tu vois.
Non, par exemple, il est obligé d'augmenter son niveau statistique pour que son équipe soit 4e.
Après, sur l'augmentation des stats, ça parle, mais par contre, il n'est pas obligé d'être à 47% à 3 points.
C'est
le joueur le plus en voie de la Ligue, hein, quand même, à 3 points. Moi, je peux bien, s'il est obligé d'augmenter, il prend plus de tirs, il n'est pas obligé d'être à 47% à 3 points.
Donc, franchement, Victor, il se rapproche, mais il manque encore une ou deux marches pour aller chercher les top leaders de la Ligue.
Après, est-ce qu'un Kevin Durant, Anthony Davis, hein, LeBron James ne sont pas devant, en fait. Devant Victor.
Ouais, Kevin Durant, c'est trop...
Vu les Suns...
Pas assez joué.
Anthony Davis, c'est une saison monstrueuse, monumentale.
Anthony Davis, c'est magnifique. Anthony Davis, il est dans la course aussi.
Et franchement, Carl Anthony Towns.
Meilleur rebondeur.
Un petit peu aussi.
Alors, le truc, c'est que comme il joue 45 minutes avec Thibodeau tous,
c'est vrai.
Tu fais un peu plus de volume.
Anthony Towns, je demande à le voir dans 3-4 mois. Dans quel état, physique il va être.
Il aura pris 30 ans dans la gueule.
Oui. Tu sais ce qui manque à Victor et qu'on n'a pas encore vu, peut-être que vous allez le corriger.
1,60 points.
Non, des
stats. Il n'en veut plus des stats aussi.
Un game winner, un buzzer beater.
Être clutch, j'ai envie de te dire. Parce que les deux derniers matchs qui viennent de perdre contre Denver.
Le compte sur Jokic, c'est clutch.
Oui. Mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est que là, ils viennent de perdre Bulls et Denver sur la prolongation ou des matchs qui jouent à peu. Et il manque peut-être ça à Victor.
Je suis d'accord
avec toi. Tu vois, hier, DeRozan avec Sacramento, il met 9 points dans la prolongation, il fait gagner son équipe. Ouais. Il manque à Victor un match référence où c'est lui dans le Money Time qui met tous les paniers ou qui
et
met le panier
de
la gagne.
Il est capable de le faire plusieurs fois.
Oui.
Ce que sont les grands joueurs en vrai. Parce qu'ils le font tous, LeBron, et Butler,
et
Lillard.
Ça va arriver forcément,
oui. Mais
dans 15 jours, ça serait bien,
non? À cet âge-là.
Ça peut venir très vite. Hein,
ça peut venir très vite.
Ça peut le faire ici, à Paris.
Mais peut-être, ouais. Mais autant la progression individuelle et collective, elle est incontestable et c'est top, autant c'est pas encore une équipe hyper forte.
Oui, mais plus tu progresses collectivement, plus tu as de probabilités de te retrouver dans des moments où tu es à égalité avec une autre équipe.
Après, ils ont gagné des bons matchs, ils ont gagné des bonnes équipes.
Ils ont gagné des bons matchs. 18-18, c'est très bien. Ils gagnent 4 matchs, ils sont déjà au même niveau que la saison dernière. 18-18, c'est bien.
Moi qui avais parié 30 victoires, je pense que je vais être un peu loin.
Ouais, je pense qu'il va y avoir 35.
35, voire 40.
Mais ça va pas suffire.
Ça va pas faire 50%? Peut-être quand même.
Ça va être dur. Là.
50%, ça veut dire qu'il faut gagner combien de matchs, Pierrot?
41.
Bravo.
Il en manque donc 23.
Bravo, Pierrot.
On va pas à l'étage au-dessus supérieur, top 3, c'est plus tard.
Bah, étant donné qu'on n'est pas tous d'accord sur le top 5, déjà, c'est difficile
de dire. Pour revenir sur les stats, parce que moi j'adore les stats, Pierrot. tu sais que Victor Wembanyama, en moyenne, de contre, il a plus de contre que Miami ou Brooklyn.
Bah, oui. C'est fou.
C'est un truc de ouf.
Mais c'est fou. C'est quand même fou. C'est quand même des stats intéressantes.
Oui, ça c'est marrant.
Et puis, alors, pour le coup, toi qui regardes les matchs, c'est des vrais contres. C'est genre le truc pour la stat où t'as de la chatte.
Non. Et en plus, il fait en sorte de mettre des contres où il garde le ballon.
Oui, parce que ça, c'est
tout. Tu as vu ces nouveaux contres aussi? Oui, contre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de contrer vers l'attaquant, il compte dans l'autre sens.
Parce que parfois, c'est des actions à 4 points.
Oui.
Parfois, ça fait contre-attaque directe.
C'est que cette nuit, j'ai revu du Manu de Ball contre les Bulls. Il met 3 contres de suite où le mec il récupère et retire. C'est Manu de Ball qui faisait ça, qui 3-4 contres de suite sur la même séquence. Il y a du Manu de Ball.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand tu contres, t'envoies une énorme bâche et pars en tribune, mais tu récupères pas la précision.
Tu sers les muscles.
Et t'as pas récupéré le ballon.
Et en fait, c'est pas les stats. Tu crois que les joueurs sont attirés par les stats?
Ah oui.
Ah bah c'est le premier truc qu'ils font après avoir regardé un match.
Ouf. Tu crois qu'au Christmas Game, il a pas dit c'est quoi le record le 25 décembre?
Évidemment. Donc c'est pour ça que les stats continuent à exister. C'est aussi parce que les joueurs.
Non, mais attendez, même vous, quand vous finissiez un match, qu'est-ce que vous faisiez?
Jamais.
Vous regardiez les stats?
Jamais.
Non, Steve, il savait. 7 sur 10 à 3 points, plus de 25.
Après, c'est des stats individuelles, mais des stats aussi de l'équipe.
Quand tu rentres dans le vestiaire, t'as quand même un feeling du nombre de paniers que t'as mis,
oui,
le rebond, le nombre de comptes quand même.
Mais tu regardes obligé. Globalement, pas que ta ligne de stats, mais c'est un des premiers trucs que tu fais.
Qui t'a regardé, tu regardes la tienne surtout.
Après, je regarde le poste 4, moi, ce qu'il a fait pour savoir si je mérite de jouer plus ou pas.
Allez, c'est un spécial joueur français cette semaine dans Basket Time. On va parler des autres français de la NBA.
Bali, inside, kicking it out. Sarr shooting with 5 on the shot clock. Corner 3 is up and good.
You may have a cross match on him.
About a corner 3 good again for Sarr.
Alexander Sarr has been named Rookie of the Month of December.
Trying to work on Sarr, trying to go reverse. Alex said no, no. Access denied.
Oh, got it. Nice cross by Bali. Wow, disturbing the peace and then mean mugging the rookie.
Talk to him.
Good hands by Richichet. Richichet, good hands to knock it away. Zachary Richichet with a steal. In on Ingram, he slams this one.
Ooh,
lob to
Koulibaly. Are you kidding? Wow! Semenchaud!
Look, that's the emotion that you want to see.
Richichet, ils arrivent pas. C'est Richichet à chaque fois.
Hein. Richichet.
Alors, Arnaud, qui sont les autres Français à leur avantage? Évidemment, il y a les Tauliers, Batum, Rudy Gobert, mais Bilal, Alexar, Gershon Yabusele, Tidjane Salin, c'est pas mal, hein?
Alors, on va commencer par Rudy Gobert. Saison difficile collectivement et peut-être aussi un peu individuellement. 10 points, soit sa plus petite moyenne depuis 2016. 10,3 rebonds, il faut remonter à sa deuxième saison en NBA. Pourtant, il joue toujours autant. Néanmoins, les lancers francs sont meilleurs. Meilleur pourcentage en carrière, 70%. Minnesota qui a le même nombre de victoires que les Spurs. Batum fait du Batum aux Clippers. Pas de stats fortes, mais Batman joue ses 20 minutes par match. Gershon Yabusele, il s'est installé dans la rotation des Sixers. C'est le sixième homme, avec même quelques matchs dans le 5, comme cette nuit, outre ses I'd like Tony Truant et ses dunks depuis Noël, il joue presque 30 minutes de moyenne, quasi 10 points et 5 rebonds de moyenne. Washington, Alex Sarr, le numéro 2 de la draft, est titulaire depuis le début de saison à Washington, dans une équipe moribonde, mais oui, 12 points, 6 rebonds, 2 passes. Il shoot à 42%, voilà, toujours quelques problèmes d'adresse. Son coéquipier sophomore, Bilal Koulibaly, 13 points, 5 rebonds, 4 passes, mais pas de progression au tir, on l'attendait, après un très bon début de saison. Il shoot à 42% au lieu de 43% l'an passé, et ça baisse même aussi à 3 points. 29% au lieu de 34%. Ryan Rupert joue peu à Portland. Ousmane Dieng, c'est pareil à OKC. Un triste record est français, c'est Tidjane Salin qui a l'un des pires pourcentages au tir de la Ligue, 32% à Charlotte.
Et enfin, c'est pas le pire sur 100 joueurs, je crois.
Je crois que c'est un des pires, oui.
Ouais, c'est qui pour la suite de Kylian Hayes.
Ouais, c'est ça.
Sur cette stat-là.
Et enfin, un mot pour son coéquipier, Moussa Diabaté, qui a eu quelques fulgurances avec des matchs à 16, 15 et 14 rebonds, mais qui est retourné sur le banc.
T'étais pas d'accord quand j'ai dit très bon à Alex Sarr?
J'ai du mal avec Alex Sarr. Alors oui, il a beaucoup de qualités, il est très athlétique déjà, il a un très bon sens du contre et il a cette capacité à prendre des bons shoots maintenant. Il a progressé par rapport au début de saison où il était catastrophique au niveau du pourcentage et je trouve que ça va nettement mieux. Ça c'est quand même hyper intéressant de progresser. Sauf que dans l'impact, il ne retient personne, il a un très mauvais timing défensif et j'ai l'impression que parfois il se contente de mettre ses petits paniers en reculant, il va pas au contact, il est pas dans le dur et dans une équipe qui ne gagne pas un match, c'est pas facile.
Professeur Weiss.
Non, professeur Weiss qui est à mon sens juste. Il a des qualités. On va pas dire qu'un mec qui fait 2-16 comme ça, qui est à 45% à 3 points sur le mois de décembre, son titre de rookie du mois de décembre de la conférence S, il est entièrement mérité. Ils ont gagné 3 matchs sur 6, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une vraie progression par rapport au début de saison sur la qualité de tir, sur les choix aussi, ils sont meilleurs.
C'est pour ça qu'il est meilleur en pourcentage.
Maintenant, je rejoins Fred sur. Il ne faut pas tout confondre au basket. Tu peux être un fantastique contreur et un petit défenseur. C'est comme les mecs qui sont à 3 interceptions par match. Ce n'est pas forcément les meilleurs défenseurs de NBA. La défense, ce n'est pas que mettre des comptes parce que tu fais 2-16 et que tu as 1m20 détente. C'est aussi être capable de tenir des 1 contre 1 sur du post-up. C'est être capable de tenir des duels quand tu switches et tenir un garde. C'est plein de choses comme ça. Ce n'est pas que mettre des comptes. Et Alexandre Sarr, pour l'instant, il a beaucoup de carences là-dessus. Il est frêle. Donc, pour l'instant, il mange les impacts. Et c'est normal. Il va s'épaissir. Mais il y a quand même quelque chose chez ce gamin qui me dit que d'ici 2, 3, 4 ans, ça peut être un joueur top, top, top. Quand même.
Ah non, mais bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est à l'instant T, il y a encore beaucoup de travail. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas avoir l'illusion juste des statistiques.
Je suis d'accord avec toi. Après, c'est une QV qui est très moyenne. Il est rookie du mois de décembre. Le côté, c'est Yves Missi. Il est prétendant.
Yves Missi qui est plutôt bon.
Contre, correct. Contre, starter, mais Alexandre Sarr ou même Zachary Zaché, ils sont deux garçons qui sont peut-être prétendants au titre de rookie de l'année. Il y a 7 mecs qui peuvent être rookie de l'année cette année. Ça veut dire qu'il y a une vraie homogénéité, mais pas une homogénéité vers le haut. Milieu de classe quoi.
Arnaud. Après, c'est vraiment la saison de l'apprentissage pour moi. T'es dans une équipe de Washington qui a gagné 6 matchs, où c'est très compliqué. Je suis plus déçu là de la tournure de la saison de Bilal Koulibaly.
Ouais, un peu sévère parce qu'avant qu'il tombe malade, il a 20 points de moyenne quand même.
Oui,
Bilal,
ah bah,
hein.
Super début de saison, mais là ça descend un peu.
Non, là il est malade. Non, là.
Le mois de décembre.
Depuis qu'il a mangé chez Moscovici, oui. Il est malade.
Il a 20 points de moyenne sur les 7 derniers matchs avant de tomber malade, Bilal. Mais moi ce qui me fait chier, c'est que Bilal, sa deuxième saison, il va gagner 20 matchs en 2 ans en fait.
C'est ça. Ça c'est
ah, mais ça, est-ce que vraiment tu peux lui imputer mais, c'est sûr, faible Washington.
Oui, mais c'est pas de sa faute, mais en même temps, le contexte n'est pas favorable à l'éclosion d'un joueur en fait.
Bah oui, donc tu peux pas vraiment. Enfin, c'est pas un bilan personnel.
Mais en fait, moi, je me projette pour nous, pour nos intérêts à nous de l'équipe de France. C'est que tu récupères des mecs qui n'ont pas cette culture de la gagne. Tidjan Salin à Charlotte, bah, c'est les bas-fonds de la ligue. Alexandre Sarr, Bilal Koulibaly, c'est les bas-fonds de la ligue. Donc, c'est bien aussi de.
Quand tu joues avec Ball et Poule.
Quand t'es drafté haut, t'es dans une mauvaise équipe aussi. Hein.
Quand t'es drafté haut, t'es dans une mauvaise équipe, oui.
Bah, il n'est pas rien, comme Alex Sarr. C'est vrai, ils vont pas tomber. Ok, ici maintenant. Hein.
C'est trop tard. Avant,
ouais, mais tu vois, Rizaché, il a la chance. Ils tombent quand même sur Atlanta qui joue plutôt un
mauvais basket. Mais Rizaché, ça va. Et c'est pas catastrophique sur la première saison quand même.
Je suis en train de dire que par rapport à
l'équipe, il est tombé dans une équipe correcte.
Oui, mais il fait pas non plus un mauvais début de carrière en NBA.
Mais c'est pas du tout ce que je veux dire.
Tu disais que t'es drafté haut, tu tombes dans une équipe de merde. Et lui, te dit bah
oui, il a un coup de chance avec la loterie.
Heureusement, lui, il a cette chance.
Bon, alors, de qui avez-vous envie de parler à part Alex Sarr? Hein, Gershon, magnifique quand même. Gershon, ça fait plaisir. T'étais assez sceptique hein, sur ses chances d'avoir du temps de jeu vraiment significatif.
Je pensais que c'était une équipe qui allait jouer le titre en fait.
Ouais. Ah oui, mais après, Jojo, il ne peut plus jouer.
Il ne joue pas cette
nuit. Il ne peut plus jouer. Bah, oui.
Zéro back-to-back.
Parce que quand il est là, quand même, il est très fort.
Ouais, mais, problème,
mais il ne joue jamais.
Il ne joue jamais. Donc, après, c'est mort. Gershon, il est irréprochable dans ce qu'on lui demande. Il met dedans à 3 points.
Il a eu raison, bon choix de carrière. Il fait 3 minutes par match.
Il va prendre 25 millions sur 4 ans. Et bravo à lui, mon grand.
Bah oui.
Voilà. Grosse cojones de parier sur lui, encore une fois. Fantastique ce qu'il propose. Et il a les mêmes stats en Euroleague au Real Madrid que cette année aux Sixers. C'est magnifique.
Surtout après un échec à Boston, c'était pas gagné quand même. Hein.
Non, c'était pas gagné, mais en même temps, il avait progressé sur un domaine qui était très important, c'est qu'il était capable de marquer des shoots à 3 points. Il était bien plus performant sur le shoot à 3 points. Ce qui lui permet d'écarter un petit peu le jeu, ce qui lui permet, en NBA, c'est hyper important, et il a cette capacité à pénétrer et être puissant. Après, jouer le post-up aussi.
Et mettre des dunks.
C'est plus facile de faire ses stats en NBA qu'en Euroleague, non?
Pas sûr.
Je pas sais
sûr.
Pas
pour un européen, c'est
alors,
pas sûr. Hein.
Si, alors,
10.7 rebonds moyens
de Vezenkov.
Non, il a raison d'un certain point. Quand t'es une star, c'est plus facile de scorer à un moment.
Oui, mais c'est pas une star quand tu viens d'Euroleague. Personne n'est une star quand tu viens d'Euroleague.
Bah si, quand Luka Doncic est arrivé, il a dit.
C'est un phénomène.
T'as le ballon dans les mains. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as le ballon dans les mains en NBA, oui, c'est plus facile de scorer parce qu'il y a plus d'espace et la raquette est moins fermée. Sauf que quand t'es un Gershon Yabusele, c'est pas plus facile parce que déjà, il faut jouer.
Puis surtout, Madrid, c'est un joueur majeur.
Voilà, c'est pour ça.
Et là, il l'est pas. C'est ce que je suis enfin, il l'était pas, en tout cas, au début de saison.
C'est ce que je suis en train de dire.
Sur qui d'autre avez-vous flashé ?
Quand même, je trouve que c'est très compliqué avec le trade de Julius Randle, Karl-Anthony Towns de
comment
cet été.
Comment tu peux jouer au basket avec Randle ?
Tu fais partie des détracteurs de Randle, toi ?
Ce qui est bizarre, c'est que je suis parti regarder avant l'émission parce que je voulais tenir à l'argument que Karl-Anthony Towns était un meilleur passeur que Julius Randle et qu'il y avait plus de connexion Towns-Gobert dans le jeu. Bon, c'est bizarre parce que Julius Randle, il est quasiment à 4 passes de moyenne cette saison, limite 5. Mais le problème, c'est que la relation des deux, elle n'existe pas. Karl-Anthony Towns faisait moins de passes, mais il cherchait plus Rudy, il y a plus de... Julius Randle, mec, c'est un puissant fond. Bon. Il est affreux.
Ah, vous détestez tous Randle.
Ah, il est insupportable. Déjà, il freeze l'attaque à chaque fois. Il a le ballon, il y a 5 secondes avant qu'il se passe quoi que ce soit.
C'est l'hiver, c'est un ballon, zzzzt, un glaçon.
Même tu te retrouves avec Anthony Edwards et Julius Randle se partager le ballon.
Mais en plus, c'est la merde dans cette équipe. Anthony Edwards, qui, moi, je l'aime bien, il fait péter, il a mis 53 encore, mais ils ont perdu.
Oui.
Ils ont gagné, mais pas il la gagne. Mais toutes ces déclarations qu'il a après les matchs sur moi, s'il faut que je touche plus le ballon, il faut que je shoote plus.
Il veut pas le monter.
On n'est pas une équipe assez dure, on est des gentils garçons. Je sais pas si ça sent bon du côté je sais pas si Chris Finch, j'espère qu'il profite de la galère des rois.
Déjà le changement, Conley sur le banc.
Mais Conley, c'est DiVincenzo
qui va être starter.
Qui va être starter?
DiVincenzo.
Il est bon, il fait une bonne saison. Alors, mais après, c'est surtout du shoot.
Non, il a eu beaucoup de difficultés en début de saison.
Il a eu un trou, mais je crois qu'il était à 20%.
C'est un vrai meneur, lui, ou c'est juste un shooter? Mais donc ça n'a aucun sens.
Je pense qu'il compte sur Anthony Edwards pour créer et pour gérer le jeu, en fait, j'imagine.
Ok. Donc ça.
Ce qui ne vous fait pas Anthony Edwards.
Ça va pas marcher, quoi.
Non. Je vois pas comment ça pourrait.
Okay. Et puis Rudy en souffrance. Rudy, si tu mets pas des ballons près du cercle. Je l'ai vu faire un hook Christmas game là après un robot offensif. Oh, oui. Ouais.
Et j'ai vu le banc adverse.
le pas adverse, mec,
avec sa main gauche là. En fait, il récupère le ballon, tu sais pas comment, et il shoot. Ah, gros, mec.
Je crois que c'était Jamel Debbouze qui shootait, gros.
Avec sa mauvaise main.
Il y a autre chose à dire ou pas? Tidjane Salin, Nicolas Batum.
Tidjane Salin, c'est parti un peu. Ça joue pas beaucoup dans une équipe pourrie en plus.
Ouais, ouais, mais ils ont dit que c'était, pour lui ce serait plus un marathon qu'un sprint. Donc il est jeune, il veut le faire progresser.
C'est la G-League, il a mis 21 points il y a deux jours. Moussa Diabaté, G-League, il fait carton sur carton. Il a un peu disparu de la rotation du côté de Charlotte. Ousmane Dieng, il joue à OKC, donc il est parti en G-League aussi parce qu'il joue que des.
Il a été blessé pendant un moment aussi.
Et il joue des Garbage Time aussi. Nous jouons en G-League, après il est dans l'Amérique de la Conférence Ouest. Donc,
Et si Sissoko joue encore aux Spurs
G-League, puis là il sera peut-être là à Paris. Hein,
Ryan Rupert qui.
Lui il a disparu de la rotation, et ça c'est beaucoup. Pour moi c'est celui qui est le plus.
Lui il joue dans une équipe de merde et lui il joue pas. Donc Ryan,
il sert
un ou deux ans, c'est à l'Asvel ça.
C'est très bien. D'ailleurs, on va en parler tout de suite.
Je dis pas ça pour être méchant.
Mais surtout qu'avec le débat qui arrive, ça va peut-être donner envie à Ryan Rupert de revenir à l'Asvel.
We got 16 seconds and counting. Here goes Malador attacking Deck, attacking Tavares, and it goes. Malador with a stunner at the end.
I think I'm getting more comfortable every game. It was a transition, obviously, spending 4 years in the United States and coming back in EuroLeague where play style is different.
Malador penetrating, loves it inside. Beautiful balance and finishing through the contact. Oh, what a pretty take to the rack and Teo Maledon.
Great vision from Teo Maledon as well. Dante Hall. Tell you, Maledon's distribution. With Maledon, Maledon's going to have a look for three and he sinks it. Oh my goodness me, Teo Maledon. Never in doubt. Never in doubt.
Voilà, déjà, là, je m'adresse au producteur de Basket Time. Les commentaires en anglais sur la NBA, bien sûr. Mais sur l'ASVEL, en Euroleague en français, messieurs.
Bah, l'Euroleague, c'est international aussi.
Bien sûr, c'est international.
Alors, essaye de pas.
C'est pas les States, tu vois.
Mais tu le dis par leur français. Tu veux qu'ils le disent en anglais?
Théo Maledon.
Quelques années, les Top 10, il y avait une espèce, je crois, un accent turc qui faisait.
Non, c'est pas plus stylé. On me dit, c'est plus stylé. Non, et on est en Europe, et la France compte en Europe. Commentaire en français.
Tu préférais qu'ils aient né Malaka.
Mettez-moi du Stephen Brun, par exemple.
Théo Kenkari, qui a mal aux dents.
Ouais. Ouais, je cherche un lien avec Thibodeau, mais je ne trouve pas, donc on avance. Donc, alors, pour une fois, et ça arrive de temps en temps.
On n'a pas compris la blague.
Et si, mais les dents.
Ah oui, les dents.
Non, je cherche avec Thibodeau aussi.
Thibodeau dents.
Ah non, bon, partie historique, on se projette dans le futur.
Oula.
Sur l'Olympiade qui arrive, d'accord. On savait qu'on avait un gros réservoir, mais jusqu'ici, on cherchait un meneur. Notre pauvre Thomas Hurtel n'a pas pu revenir à Barcelone. Encore une histoire encore dingue pour Thomas Hurtel, d'ailleurs. Mais donc, on a Théo Maledon, de retour en Europe à l'ASVEL, qui fait une saison extraordinaire. Il fait une saison extraordinaire.
Une saison extraordinaire.
Alors, est-il le chaînon manquant de cette équipe de France? Frédéric Weiss.
J'en ai marre de ça. Stéphane en a marre des statistiques, j'en ai marre.
Ah bon,
on parle toujours des meneurs qui nous manquent. Il nous manque des choses, il nous manque des meneurs. Si c'était un tel. Non, j'en ai marre. Théo Maledon fait une saison fantastique. Les Jeux Olympiques, c'est dans très longtemps. J'espère qu'il va pouvoir s'intégrer.
D'ici là, il y a des échéances. Il y a un championnat d'Europe, une Coupe du Monde.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai envie de voir s'il peut bien s'intégrer pour ce championnat d'Europe et voir comment ça fonctionne avec lui. La dernière fois que Théo Maledon est venu avec l'équipe de France, ça s'est mal passé. Il y a eu une mauvaise ambiance et ils ne se sont pas compris. Donc je demande à voir.
Avec
avec le staff.
C'était à l'Euro 2022.
Exactement, ça s'était pas bien passé du tout. Et plusieurs personnes disaient qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer à une équipe nationale.
Toi qui es reporter basket, ça s'est pas bien passé dans le jeu ou ça s'est pas bien passé dans la vie de groupe?
Dans les deux.
Dans les deux, et pas mal la vie de groupe, ils s'entraînaient vraiment à part.
Ça peut
c'était une construction d'équipe différente. Tu avais Thomas Hurtel, tu avais Evan Fournier, un autre coach. Et c'est vrai que voilà, Théo Maledon, il est arrivé, c'était un peu l'Américain. Quelque part dans
cette équipe. C'est-à-dire quoi, il a le boulard?
Oui, voilà, c'est que...
Ah ouais.
Moi, j'aime beaucoup la façon dont Arnaud. Alors, moi, je ne me mouillerai pas autant. Je ne sais pas s'il a le boulard. En tout cas, ils ne se sont pas compris.
On a eu des échos que Théo était un petit peu dans sa bulle au sein de l'équipe.
Il
s'entraînait, il ne se mélangeait pas trop aux autres, ça ne discutait pas trop. Et il avait cet esprit américain où il y a quelque chose qui a surpris beaucoup de monde, c'est que Théo, à l'entraînement, il parlait beaucoup anglais, en fait.
Donc Pierrot, toi qui voulais des commentaires français pendant les highlights.
Mais c'est pour ça qu'en fait, je comprends pas pourquoi tu as fait ça.
Du coup, ça se justifie de mettre des commentaires en anglais, d'accord.
Donc ça s'est pas, ah merde, pas très bien passé après maintenant.
Mais la prépa pour les JO, ça s'est mieux passé. Théo Malédon avait montré de bonnes choses. Il n'a pas fait le cut au final, mais ça a commencé à montrer de nouvelles choses.
Vincent Collet a eu récemment des propos élogieux à son égard. Hein. Il a dit j'aurais bien aimé pouvoir compter sur lui au JO. Il n'était pas prêt. Il n'avait pas assez de temps de jeu, etc.
Il a aussi dit qu'il avait perdu 2 ans. Hein.
Mais il n'a pas du tout chargé l'homme. Hein.
Ça s'est beaucoup mieux passé cet été en prépa.
Non, mais encore une fois, moi, je suis pas en train de dire que ça va mal se passer nécessairement. Je suis juste en train de dire qu'une équipe, ça se construit, qu'il faut voir sur les échéances comment ça se passe. Et il y a des échéances bien avant. Je pense qu'il peut apporter. Mais il y a 15 jours, 3 semaines, on disait Nolan Traoré, est-ce que c'est pas le chinois
Montcorp? Non, mais attention, Nolan
moment,
Traoré.
On va y aller doucement, petit à petit. Théo Malédon est magnifique.
Nolan Traoré, c'est un fantasme. Nolan Traoré, il a tout à faire, il n'a pas vraiment débuté sa carrière. Là, Théo Malédon, quand tu es leader
avant de partir,
d'une équipe en Euroleague, que tu as une des meilleures évaluations de la saison, c'est pas pareil, c'est pas le même statut que Nolan Traoré.
Je suis pas en train de dire que c'est le même statut.
C'est un mec qui est quand même prêt pour le basket international.
En termes d'expectative, je pense qu'on attend plus d'un Nolan Traoré
peut-être,
d'un Théo Malédon.
Si demain tu as une compète à faire, tu vas partir avec Malédon, pas avec Traoré.
Sans aucun problème.
Tu peux prendre les deux. Non, mais pour Théo, je pense que c'est le moment pour lui de rentrer dans cette équipe de France, la nouvelle ère de l'équipe de France avec Freddy Fautou, l'Eurobasket.
Lui, c'est bien qu'il y ait un nouveau coach. Je pense que justement, ça lui permet d'être une nouvelle, dans une nouvelle ère, comme tu dis.
Vincent n'a pas ce dogmatisme et ses principes bien arrêtés sur ce que je veux d'un meneur de jeu et tout ça. Donc, ça peut permettre à Théo aussi d'exprimer toutes ses qualités, qui est un meneur arrière-scoreur, Théo Malédon. C'est un mec qui met des points très fort sur la percussion. Énorme qualité de tir à 3 points, puis en plus
là pour les piquets, non, là, avec Victor,
et il a gagné en leadership. Avant il disait pas un mot, maintenant il met des paniers au buzzer, il lève le bras, il arrange la foule.
En français ou en anglais, c'est juste la question.
En français, ça dépend qui lui a fait la passe. Si c'est Paris Lee, je pense qu'il lui dit en anglais. Mais l'Eurobasket, ça doit être le point de départ pour Théo Malédon pour s'imposer en équipe de France sur un poste où il n'y a pas de monument incontournable.
Francisco, c'est pas mal.
Oui, Sylvain Francisco, dans un autre style. Mais après, c'est pas un poste d'intérieur où t'as Victor qui accapare le truc. Le poste de meneur de jeu, il y a beaucoup de garçons.
Le retour de
Frank Nikila aussi en Euroleague va lui faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, j'ai capté Fred. En fait, j'ai capté Théo Malédon, Sylvain Francisco, c'est trop flashy pour Fred. Il veut un Nikila, lui.
J'ai capté
à ta tête quand t'as réagi à Malédon, okay, Nilikina.
Ah non, Malédon, oui.
Francisco.
Francisco, je suis désolé, moi j'y crois beaucoup moins. Moi je préfère un Théo Malédon qu'un Francisco.
Ça peut être un.
Je pense que c'est un dynamiteur,
un énergiseur. C'est super ça, en sortie de banc.
Mais qui va pas être sur le terrain tout le temps.
Après, ce que fait Théo en Euroleague, c'est monstrueux.
Il n'y a pas
un match où il passe à côté. Il a battu le record sur le nombre de matchs, au moins 20 d'évaluation. Il en a fait 10 de suite. Et puis même s'ils ne sont pas pour l'instant dans les play-ins, ils ont gagné 8 matchs, ce qui est déjà énorme. Et puis il a tabassé des équipes comme le Real Madrid, il a tabassé les plus grands d'Europe. En prenant les équipes, il avait besoin d'avoir des responsabilités et montrer qu'il peut avoir porté une équipe, être le leader d'une équipe. C'est le cas. Alors ça reste une étape. L'année prochaine, il sera leader du Real Madrid ou je ne sais quel autre.
Je pense qu'il va aller où?
Du Real Madrid.
C'est annoncé qu'il a déjà signé au Real Madrid. Ouais. On sait que l'ASVEL est une étape intermédiaire, comme l'a été pour Gershon, pour Mustapha Fall, pour Yokobo. C'est une étape tremplin pour revenir, pour montrer qu'on est capable de jouer et ensuite partir dans un plus gros club d'Euroleague. Donc pour l'instant, le Real Madrid tire la corde.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire de Facundo?
Ils peuvent jouer les deux. Tu peux avoir deux mecs quand même quand t'es le Real Madrid.
Personne joue 40 minutes, il faut quand même que tu aies
un numéro 1.
Le numéro 1, ça peut être Facundo Campazzo et Théo Malédon qui sont du bord.
Après, ce débat, il faut quand même dire ce que dit Steve. C'est-à-dire que les performances sont quand même... Moi, je ne savais pas toutes ces histoires-là, que ça s'était mal passé, etc. Si tu te dis, ce mec-là, il arrive, il n'était pas prévu à ce niveau-là cette saison, dans une équipe qui avait besoin d'un meneur, mais c'est jackpot, tu vois, sur le papier.
Mais bien sûr.
Donc, c'est pour ça que quand je te vois quand même être très prudent et mettre des bémols à tout ça, je suis un peu étonné parce que finalement, ceux qui arrivent derrière, ben, c'est pas leur manquer de respect, ils sont beaucoup moins forts. Ils sont beaucoup moins forts.
Oui, mais Pierrot, ce que Fred veut te dire, c'est que cette équipe de France-là, tu ne prends pas les 12 meilleurs joueurs.
Non,
parce qu'après, ça ne fait pas une équipe.
Je suis d'accord, mais c'est très clair.
Il faut de la complémentarité. L'axe central, c'est Vitor Wembanyama. Maintenant, il te faut un formuleur de jeu aussi. Mais qui te dit que si tu as Théo Malédon, tu n'as pas André Albici ou tu n'as pas Frank Ntilikina qui ont des registres différents aussi et qui peuvent être très complémentaires.
Bien.
Parce que si tu prends Sylvain Francisco et Théo Malédon et un autre troisième meneur qui met des points.
Qui va défendre?
Par contre, le jour où tu n'as pas Victor, où il est dans un jour sans, c'est pas mal d'avoir Malédon.
Je suis d'accord avec toi.
Attends, tu comprends pas, Pierre. On n'est pas en train. Non, mais je pense qu'il faut qu'on t'explique un petit peu plus calmement. Vraiment. Je pense que c'est très important d'avoir un Théo Maledon dans cet état de forme et qui s'intègre bien à l'équipe. Oui, mais encore une fois, il faut savoir s'il sera dans cet état de forme et s'il s'intègre bien à l'équipe. Et encore une fois, t'as écouté ce qu'a dit Stephen, l'axe majeur, c'est quand même Victor.
Alors, en termes justement de basket pur, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble sans problème, les deux ?
Oui, sans problème.
Bien sûr.
Bon, alors tout va
bien. Sur le papier.
Théo, il a une qualité de passe. Moi, j'ai rien à reprocher à ce gamin-là. Il a tout. Et puis, tu sais quoi ? C'est un putain de mec athlétique, gros. On dirait pas comme ça. Mais il monte au cercle, il met des tomards. Il est juteux, Théo Maledon.
Parce qu'un mec 93.
Je l'ai vu là sur 2-3 dunks. Je lui ai dit, mais.
All-Star Game, tu l'as vu monter en détente sèche et tout ça.
C'est Théo Maledon,
juteux, gros. Et puis, il a une qualité de finition sur les grands, là. Et putain, il reste longtemps en l'air.
Et il a que 23 ans. C'est un 2001, 23 ans. Donc, il reste encore jeune. Et c'est vrai que là, on parlait que ça s'était mal passé il y a 2 ans. Bah, t'as le rossi de grandir, mûrir.
Tout le monde fait des conneries, Pierrot. Mais le coup de parler en anglais, c'est exceptionnel quand même.
Come on, Vince, what are you talking about, Vince?
J'ai joué avec Tariq Abdul-Wahad, il parlait en anglais tout le temps aussi.
Oui, mais alors, autre personnage quand même.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le premier.
Attention, parce que Tariq Abdul-Wahad, il a entre guillemets l'excuse d'avoir été le premier français en NBA, ça peut te monter à la tête.
Et à la fac américaine aussi.
Ah oui.
Moi, j'ai été coaché par Pascal Ladieu, il a cette particularité de jamais parler anglais.
J'ai joué 10 ans en Espagne, quand je revenais en France, je parle pas
Claude Bergeau, non, plus, non. Allez, c'est l'heure du quiz.
Je m'appelle Frédéric, j'ai joué au basket un petit peu quelques années, et j'ai même joué dans un film. Je peux insulter Kevin Garnett, qui est un débile profond absolu. Par exemple, déjà dans sa lecture de jeu, il est catastrophique. Ensuite, il est juste pas gentil, en fait, ce mec. Ce mec est pas gentil. Et son attitude est celle d'un mec pas intelligent. Et tu sais quoi aussi, la plupart des gens, quand un basketteur shoot dans la corbeille et qu'il rate, il dit « Ah bah, t'es basketteur pourtant ». Bah, je dis oui, basketteur, c'est pas mettre du papier dans les corbeilles. Hein.
Il est exceptionnel, le mec.
Il y a un peu de Jean-Claude Van Damme là-dedans.
Bon, c'est un quiz spécial joueur français. Voilà.
Ouais.
Bon, c'est le thème, hein, mais après le thème, on prend des libertés, évidemment. Bien sûr. Hein. Allez, première question. Qui a déclaré, Fred ?
C'est pour
je dis Fred parce qu'il n'aime pas les déclats. Qui a déclaré ? Au début, je ne regardais que des films que je connaissais déjà, comme He Got Game de Spike Lee ou White Man Can't Jump. Et c'est vrai que c'est mieux en anglais, en fait.
Bila Koulibaly ?
Non.
Rizaché.
Sur son adaptation à Atlanta, où il dit qu'il trouve la ville géniale, l'organisation géniale, qu'il a rencontré des gens fantastiques qui l'aident beaucoup, et que pour apprendre l'anglais, il s'est mis à tout regarder en version originale.
Good Game en français, je ne sais pas ce que ça doit donner.
C'est sûr que ça doit être bien...
Salut Jésus.
Jésus Shuttleworth.
Premier point pour Stephen, un petit mot sur Rizaché, adaptation. On néglige un peu ça aussi quand tu ne parles pas bien anglais. Ça ne doit pas faciliter les choses quand même.
Non, c'est complexe. Après, il a la chance d'avoir Clint Capella qui est dans son équipe, qui est un Suisse et qui parle bien français, qui fait le lien aussi entre les deux. Après, Zachary est un garçon plutôt bien connecté.
Il parle correctement.
Il s'entend bien.
Oui.
Alors, donc, il est passé de Bourg-en-Bresse à Atlanta, et ça, c'est sûr, ça fait un choc.
Pas la même qualité de poulet, par contre, Bourg-en-Bresse
petit à Atlanta. Petit quiz de culture générale américaine.
Georgie.
Alors non, pas du tout. Les 10 plus grandes villes des États-Unis.
Qu'est-ce que c'est que ça,
en nombre d'habitants.
Je suis basket time, moi. Je suis.
Chacun son tour.
Ça fait de mal.
C'est question pour un champion.
Ça fait pas de mal d'apprendre un peu des choses. Chacun son tour, exactement. Vas-y, commence.
Moi, toujours obligé d'écrire. Hein.
Bah parce que je prends.
C'est un élève appliqué. Hein.
New York City,
c'est la plus grande en termes de population et de très loin, avec plus de 8 millions d'habitants. C'est un point pour Arnaud, Fred.
Elle est
la deuxième, bravo, dans l'ordre, mais beaucoup moins, 3,6 millions.
Écoute, moi je vais donner une ville où je vais très souvent, exactement. Je kiffe, et très sous-côté, et c'est
bravo.
Chicago.
Excellent, et c'est la troisième, vous me les faites dans l'ordre. Hein. Allez, la quatrième, elle est plus au sud, là.
Atlanta ?
Atlanta n'est pas dans les... Non, n'est pas dans les 10, tu fais arnaque. Fred ?
Philadelphie,
c'est la sixième, exactement, ouais.
Moi, je vais aller sur une ville qui est très grande, il me semble, c'est Dallas.
Non, je crois que c'est
Dallas.
Pas...
Dallas est neuvième.
Parce que t'as la banlieue qui est Fort Worth qui compte, je pensais pas que ça passerait.
Alors, 1,3 million seulement, mais ça fait partie des 10 plus... Pardon, les 10 plus... les 10 villes les plus peuplées des États-Unis. À toi, Arnaud.
Il est pas éliminé.
Bon, je lui laisse.
Allez, vas-y.
Houston, c'est la quatrième. Excellent. Fred, il n'en reste plus que 4.
San Antonio
est pas loin, mais il n'y est pas dans les 10.
Moi, je vais tenter.
Si, San Antonio, qu'est-ce que je te raconte? Bien sûr, 7e. Bravo, Fred.
Il y a 3 villes du Texas. Incroyable. Il y en a une quatrième aussi, c'est ça que tu me dis? Pourquoi tu fais comme ça? Je vais hésiter entre deux villes de Floride, Miami ou Orlando. Il faut que je fasse un bon choix et je vais tenter. Miami.
Ni l'une ni l'autre.
Ouais,
pas de regret. Par contre, je crois qu'il y a une ville, je vais vérifier, mais je crois qu'il y en a une qui est en Floride.
Pourquoi j'ai pas dit San Francisco ?
Une qui est ? Il tape.
San Francisco n'y est pas.
Ah, oui.
pas de.
Moi, j'allais le dire.
Mais il y a une ville de Floride, mais qui est pas la plus connue. Enfin.
Tampa.
Non.
T'as là si.
Fred.
Je sais pas. Comme ça, j'aurais dit Washington, mais.
Non, non plus. Allez, il y en a une. Alors, je vais vous dire, il y a encore une ville qui a une franchise NBA, très grande ville dans le sud des États-Unis, à laquelle vous n'avez pas encore pensé.
Nouvelle-Orléans.
Steve, c'est à toi.
C'est à moi, dans le sud des États-Unis. Ouais.
J'en ai une, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça quoi ?
C'est celle de Fred, je pense.
Boston ?
Allez, un dernier tour. Non. Arnaud ?
T'avais dit dans le sud, la Nouvelle-Orléans ?
Non.
Phoenix ?
Phoenix. Ah, bravo Fred, un point de plus. Et les deux autres, c'est San Diego et Jacksonville en Floride.
Okay. Jacksonville, je l'aurais pas trouvé.
Après, t'as tous les mecs qui s'appellent Jackson qui habitent là-bas. Edwin Jackson, Phil Jackson.
Je vous fais un point sur le score. Fred 4 points, Steve 3 points, Arnaud 2 points. Il s'en sort bien souvent sur les questions de culture, j'ai Fred.
Bon. J'ai regardé National.
T'es un bon élève à l'école ?
National Geographic. Ouais.
Arnaud aussi, tu devais être un bon élève.
Ça va.
Steve, je te pose pas la question.
Fred, il regarde National Geographic, la 124 sur la box.
Malheureusement, c'est vrai.
Le documentaire sur les requins.
Allez, la petite dinguerie du jour. Je vous fais deviner des joueurs qui ont un nom à consonance française,
mais
qui ne sont pas français, qui jouent actuellement en NBA.
Ah, okay. C'est très bien ça, bravo Pierre.
On démarre avec un joueur drafté en 2015 par Boston en 16e position, qui fait ses 4 saisons à Boston, avant de partir à Charlotte, où là on lui donne un vrai rôle de meneur arrière, où vraiment il s'exprime pleinement. Parti en janvier 2024 de Charlotte dans un échange avec Kyle Lowry. Il a gagné en prolongation cette nuit avec. Il a perdu en prolongation cette nuit avec Miami. C'est Terry Rozier.
Terry Rozier.
Rozier en français. Ouais, bravo.
Ça pique.
Ensuite, une autre. On cherche un joueur drafté très haut. Troisième par New York en 2019. Des débuts réussis. À tel point. Alors là, ça, j'ai découvert cette info. Qu'il est le premier joueur drafté par New York au premier tour à prolonger son contrat depuis 1999. C'est incroyable cette stat.
Précieux, ça, non.
Non, c'est pas Chihuahua. Un certain Charlie Ward.
Oui, Charlie Ward, qui était très fort au football américain aussi.
Et bien, donc, ce mec-là, c'est le deuxième seulement depuis 1999.
C'est qui, vas-y, dis-moi.
C'est R.J. Barrett.
Exactement.
Ah ouais.
R.J. Barrett, qui a un nom de surnom de dealer de shit, oui. Exactement.
Barrett.
Et un troisième, un ailier. Né à New York en 2001, donc c'est récent, c'est un jeune.
Bénédicte Mathurin ?
Non, bien qu'il aurait pu naître à Reims, mon cher Arnaud.
Champagny.
Comment t'as
Champagny.
Dit ? Champagny. Oui, mais lequel ?
Bah, son frère.
Bah, les deux.
Celui des
Spurs. Je crois que t'as dit le bon.
Julius.
Julian. Julian Champigny, qui est le meilleur des deux, Justin ou Julian ? C'est un peu le même
ça
style.
Ça dépend, c'est le mec des Spurs, quand il rentre et qu'il a un coup de chaud, il est très bon.
Oui, il peut être très bon.
À Washington, il démarre.
Justin a fait des gros matchs. Avec Washington.
Tu l'as pris dans ta fantasy ?
Non, j'ai pas pris, mais j'ai regretté, tu vois. Parce qu'il y a eu des absents, il a bien comblé les trous.
Ils sont coachés par Pop. C'est Pop Champagne.
Allez, Steve a égalisé avec Fred. Arnaud, t'es à la ramasse, t'as 3 points de retard. On en est où ? Oh, dans quelle équipe joue Killian Hayes actuellement ?
L'équipe de Jigs de Brooklyn.
Qui s'appelle
les... Long Island Nets.
Ah, Long Island Nets. Bravo, Arnaud.
Belle passe des noms.
Merci.
Killian Hayes, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il fait quelques stats. Hein. Il a fait quelques stats sur.
Déjà, ne me parle pas des stats NBA. Alors encore moins, c'est de Chili Fred.
Il a fait un triple-double, je crois.
Non, mais on peut le sauver encore.
Lui peut se sauver lui-même s'il prend la bonne décision.
Revenir
en France. Est-ce qu'il peut revenir en
France ou en Europe ? Pourquoi il pourrait pas ?
Je sais pas.
Bon, il y a plein de clubs en Eurocup, partout.
Un papa quand même. Il est intéressant. Donc il peut,
mais est-ce qu'il serait capable de revenir à un club d'Eurocup de...
Est-ce qu'il serait assez. Qu'il aurait assez d'humilité pour revenir en Europe, c'est ça que tu veux dire ?
Mais ils ont tous ou pas dans une.
Mais ils ont tous ce boulard, vous joueurs, quand même.
Ils ont tous le boulard.
C'est le problème, hein ?
Je sais pas, moi.
Bon, allez, on avance. L'histoire un peu du basket français. Qui est le premier joueur français à avoir réalisé un triple-double en NBA ?
Nicolas
Boris Diaw.
Boris Diaw, bravo, en 2006.
Pour ces joueurs,
31 janvier avec Phoenix contre les Sixers. Et maintenant, qui est le joueur français à avoir réalisé le plus de triple-double en NBA ?
Joachim Noah.
Non.
Boris Diaw.
Non.
Nicolas Batum.
Nicolas Batum, 9 quand même. Hein. Tipeee 1, Noah 7, Boris 6, Wembanyama pour l'instant 3. Qui a déclaré, dans une interview qui date d'il y a 2 ans dans l'équipe, Vincent Collet a déclaré « Le basket français lui doit beaucoup ».
Tony Parker.
De qui parlait-il ? C'est pas Tony Parker.
Joachim Noah ?
Non.
Boris Diaw ?
Non.
Le basket français lui doit beaucoup il y a 2 ans.
Nando De Colo ?
Non.
Il y a 2 ans.
Ouais. Enfin, il y a 2 ans, Batum, je vous le dis, pour, c'est pas important pour trouver. Il aurait pu le dire hier, ça.
Victor Wembanyama ?
Non, c'est pas un Français. Il parle pas de quelqu'un de français.
Kenny Atkinson ?
Non, mais tu te rapproches dans l'idée.
Gordon Herbert ?
Non.
Ah,
Popovich ?
Larry Brown.
Popovich, absolument, parce que Vincent Collet dit c'est lui qui a fait Tony Parker le meilleur joueur français de l'histoire. C'est toujours le meilleur joueur français de l'histoire pour le moment.
Oui.
Ah. Bah oui.
Avec Jason Tatum.
On peut pas. Non, mais on peut pas mettre Wemby pour l'instant devant.
J'ai rien dit, moi.
Ouais, mais vous avez pas répondu.
Ah non, voilà.
Donc ça n'est pas un doute.
Et qui me dit mot consent.
Tu poses la question à 21 ans.
Et qui me dit mot consent.
6 points pour Steve, 6 points pour Fred, 4 points pour Arnaud. On arrive près de la fin. Avant la question multipoint, une citation qui a déclaré très récemment: j'ai eu un appel de Freddy, je serai
Fournier,
présent.
Evan Fournier.
La prochaine fenêtre en février. Evan Fournier va faire la prochaine fenêtre, c'est magnifique.
Ouais, mais il fera pas, peut-être pas l'euro.
Non, il a dit qu'il sait pas. Il a dit en fait c'est trop tôt, il y a plein de raisons pour lesquelles il veut pas s'engager. Mais en gros, il a quand même laissé la porte ouverte. Hein.
La porte ouverte, mais après, je l'ai pas vraiment rassuré.
Après, Evan, il a jamais vraiment évoqué de retraite de l'équipe.
Non,
de France,
mais non. De là à faire les fenêtres avec son statut, c'est bien. Je trouve ça super.
Pourquoi après, là,
parfois, les mecs de Euroleague n'y allaient pas.
Oui, mais là, tu joues à Bosnie avec tous les mecs de Euroleague, c'est vrai, c'est pas les fenêtres où il y a personne. C'est sympa.
Et là, en termes de calendrier, tu peux. C'est-à-dire, la précédente fenêtre, les joueurs de Euroleague ne pouvaient pas. Oui. Là, ils peuvent.
Okay. Merci pour la précision, Arnaud. Ah, ça, c'est un journaliste qui fait son travail.
Mais ça, c'est un journaliste, du coup.
On en est à
7. Qui va perdre le quiz.
Pour Steve, 6 pour Fred et 4 pour Arnaud. Alors, question multipoint, peut-être pour que Arnaud fasse un comeback. Je vous demandais de me citer un par un tous les Français draftés dans les 15 premiers qui ont joué en NBA.
Ah,
c'est-à-dire que Fred va être 15e, ça ne marche pas. OK ? Dans les 15 premiers. Dans les 15 premiers. OK ? Il y en a des très faciles. Et puis, pour trouver l'ensemble des réponses, ça ne va pas être si simple que ça. C'est Arnaud qui démarre.
Victor Wembanyama.
Victor numéro 1 en 2023, c'est bon, Fred ?
Rizaché.
Rizaché, numéro 1 en 2024, c'est bon. Steve ?
Nicolas Batum.
Il est dans 15 ?
Batum, 25. Arnaud ?
Bilal Koulibaly.
Bilal Koulibaly, 7e en 2023. Fred ?
Alexar.
Alexar, 2e en 2024. Steve ?
Giannis.
Mais il n'est pas perdu ?
Ah non, mais j'ai laissé une deuxième chance à Arnaud, je laisse une deuxième chance à Steve.
Il n'y a pas de deuxième chance, ça va être moi, bien sûr.
Kylian Hayes, 7e en 2020, c'est bon. C'est qui, c'est Steve, hein, c'est ça? Oui. Arnaud ?
Franck Ntilikina.
8e en 2017, c'est bon. Fred ?
Joachim Noah.
Joachim Noah, 9e en 2007, bravo. Steve ?
Tidjane Salin.
Tidjane Salin, 6e en 2024, Arnaud ?
Voilà, c'est dur.
Alors c'est dur, il y en a encore...
Je vais tenter, mais...
Un facile, les autres sont plus difficiles.
Rudy Gobert ?
Non.
Ah.
Et 27.
Rudy, 27.
27. Bravo.
Bah oui, c'est vrai, le numéro.
C'est
vrai.
Plus.
C'est vrai.
Très bien. Excellent. 11e en 97. Alors attention, on va faire un point sur les scores. Il reste 3 noms, 4 noms à trouver. Ce n'est pas les plus faciles. Et Fred est à 10. Steve à 9. Arnaud à 7. Steve, c'est à toi.
Sekou Doumbouya.
Excellent. 15e en 2019.
Il a sorti de loin, celui-là.
Il en reste 3. Vous pouvez les trouver.
Bon, j'en ai un.
Pas facile, mais vous pouvez.
J'en ai
Arnaud.
J'espère qu'il ne va pas me l'oublier.
Là, je suis un peu à la ramasse.
Allez, un récent, 2 anciens. De vraiment anciens. Et un récent.
J'en ai un sur les deux.
Je vais tenter un ancien, mais Mike Pietrus.
Mike Pietrus, c'est excellent. 11e en 2023. En 2003, pardon.
Fred. Jérôme Moïseau.
Jérôme Moïseau, c'est excellentissime. 11e en 2000. Donc, et là, il nous en reste un.
Ouais.
Mais donc, il me semble que.
Je l'ai.
11 à 10. Donc si tu l'as, tu égalises avec Fred et je ne sais pas quoi faire. Si je sais quoi faire.
Si tu ne sais pas quoi faire, je me trompe.
Non, je sais quoi faire.
Très bien. Je vais tenter.
Mm-hmm. Oh, le suspense.
Ben, tente-le.
Vas-y.
C'est un truc de Dieng.
De Dieng.
Ousmane Dieng, 11e en 2022. Bon, je vais vous départager comment.
Je sais.
Vous allez me donner... Le niveau de draft d'un Français au
le
hasard.
De draft
ah,
de Babac
non, de
le numéro
Non, le niveau de draft.
Le rang.
Ouais, le
rang de draft, oui. Exactement. Allez. Il est où? Je ne le trouve plus. Gershon Yabusele. Le plus près des deux.
17.
Gershon Yabusele, 21.
Gershon Yabusele a été drafté
29,
15.
En 17e position. 17. Bravo, bravo Frédéric Vest, c'est mérité. Le score exact, le juste prix, c'est gagné. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.